Micro-Rebelle Reportage, c'est le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro-Rebelle Reportage, à écouter sur microrebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités, vos suggestions, vos idées, toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Je suis Coraline Lebrun, je suis responsable du pôle insertion chez Passerelle. Je suis arrivée il y a seulement 2 ans. J'ai été appelée par un monsieur qui s'appelle André Noël, qui est notre président, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant en chantier insertion chez Vestali, et qui m'avait dit « Oh, j'aime bien quand tu travailles, si j'ai une place, je t'appelle ». Et puis voilà, un beau jour, j'ai un appel et il m'a proposé de reprendre une action qui s'appelle Initiative Emploi des Jeunes, donc vers les jeunes qui sont déscolarisés. Donc je suis arrivée comme ça il y a 2 ans chez Passerelle. Et là maintenant, je m'occupe du pôle insertion, aussi bien pour les adultes que pour tout type de public en fait.
Alors est-ce que tu peux nous détailler justement ce pôle insertion qui sont les gens qui sont insérés? Qui est-ce qui les insère? Pourquoi est-ce qu'on les insère? Qu'est-ce qu'ils font? Enfin, essayez un peu pour nos auditrices et nos auditeurs de détailler un petit peu cette activité.
Alors, le pôle insertion, c'est vrai que c'est vaste parce qu'on a énormément d'actions. Même si on est une petite association, on est très impliqué et on essaye d'interagir sur beaucoup de publics. Notamment, on commence à partir du collège. Dans les collèges, on intervient sur tout ce qui est professionnel et on travaille avec la plateforme de prédécrochage, le programme de réussite éducatif de la ville de Liévin, au sujet des jeunes qui pourraient être sensibilisés au décrochage. Ensuite, on travaille avec les jeunes qui ont décroché, donc sur l'initiative emploi des jeunes, financée par le FSE. Donc là, c'est des jeunes complètement perdus, on va dire, qui sont ni à la mission locale, ni nulle part. D'ailleurs, ils viennent pour ça, parce qu'ils ne correspondent pas, on va dire, aux standards de la société actuelle. Ils ont des suivis sociaux, des suivis judiciaires. Et donc, nous, le but du jeu, c'est normalement les remettre à l'apprentissage, mais c'est bien compliqué des fois. Et juste une réussite sociale, c'est vraiment bien déjà. Donc par exemple, réussite sociale, si on arrive à gérer le logement ou le judiciaire, les accompagner dans une formation, c'est un positif pour nous.
Ça veut dire que on est quand même un peu loin de l'insertion professionnelle, on est plus dans l'insertion sociale, dans l'accompagnement presque vie quotidienne finalement.
Voilà, on agit sur tous ces publics, on travaille aussi avec le public adulte de cette même façon, c'est-à-dire qu'une avancée sociale est déjà une avancée pour nous. Donc c'est vraiment aider les gens les plus les éloignés de l'emploi et de la société pour justement, de toute façon, ces avancées sociales sont obligatoires pour le professionnel, puisque s'il y a encore des problèmes périphériques, on ne pourra pas trouver d'emploi ou de formation.
Alors est-ce que tu peux nous décrire un petit peu finalement le parcours d'un... Alors comment est-ce que quelqu'un fait pour arriver à Passerelle dans un dispositif d'insertion que tu coordonnes? Alors j'ai bien compris qu'il y a du repérage qui se fait au collège, bon ça c'est un premier point, mais sinon ils arrivent comment à Passerelle? C'est quel type de dispositif? C'est les villes? C'est les missions locales? Comment est-ce que tu constates qu'un jeune est devant toi ou devant ton équipe?
Alors, pour tout ce qui est jeune, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de partenaires, hein, tout ce qui est mission locale, point information jeunesse, du bassin, mais aussi hors bassin, parce qu'on on va aussi sur Arras avec les foyers. Donc, on a des partenariats avec des foyers de d'aide sociale à l'enfance, la MDS, l'association ODAS. On travaille aussi avec la PJJ donc, et les prisons, sortant de prison. On a des gamins qui sortent de prison et qui ont le droit aussi de se réinsérer, c'est compliqué. Et on a aussi le public adulte. Et donc là, ils sont... prescrits par la région ou par le département. Donc notamment pour les actions de remobilisation autour du projet professionnel ou d'action sociale et d'insertion qui sont gérées par le conseil départemental.
Très bien, je te remercie pour ces précisions. Si tu es d'accord, on va peut-être maintenant rentrer dans le détail de ce que fait Passerelle en direction des jeunes que tu viens d'évoquer. Alors, c'est quoi un parcours d'insertion à Passerelle? C'est quel type d'activité? C'est quel type de démarche? Ça concerne quel type d'accompagnateur aussi? Enfin, bref, quels sont les champs sur lesquels Passerelle intervient dans le contexte que tu décris?
Alors, Passerelle, on aime bien essayer de mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire qu'on essaie de rassembler tous les partenaires parce que ce n'est pas évident d'avoir une même voix. Donc souvent, les personnes ont plusieurs référents, un référent social, un référent judiciaire, et ils sont perdus. Donc le but du jeu de Passerelle, c'est de rassembler toutes ces personnes et d'avancer ensemble autour d'un même projet. Donc déjà, ça, c'est très important. Et ensuite, c'est vrai que comme on est une association de proximité, les personnes viennent plus facilement ici se confier et donc on récupère des informations qui servent ensuite aux assistantes sociales, qui servent aux éducateurs. Et on avance forcément d'abord sur le social, les problématiques, mais en parallèle sur la création d'outils indispensables comme le CV, la lettre de motivation, la préparation aux entretiens et la visite d'entreprises et de centres de formation.
Alors, tu évoquais les différents problèmes tout à l'heure. Tu évoquais par exemple les problèmes du logement. J'imagine qu'on peut aussi imaginer des problèmes de santé. Alors, quels sont les types d'interventions dans ce cas-là?
Alors toujours avec le partenariat, parce que on est chacun son boulot, hein, on va dire. Moi, je suis pas du tout, je peux pas gérer une personne. On avait deux jeunes l'année dernière agoraphobes. Donc moi, je peux pas gérer tout ce qui est médical.
Qu'est-ce que ça veut dire agoraphobe?
Alors agoraphobe, c'est qui a peur de se retrouver dans la foule, hein, se retrouver dans du monde, etc. Donc elles ont arrêté l'école, décroché parce que le collège ne correspondait plus. Et donc on les a accompagnés professionnellement avec le partenaire, par exemple, Phil d'Ariane, qui était leur suivi psychologique. Et on a fait toutes les démarches main dans la main avec le Phil d'Ariane. Mais par exemple, on travaille aussi avec le XAPA, qui s'occupe des addictions. On travaille avec tous les CHRS, donc centre d'urgence et de secours pour le logement, le CLAGE, sur tout projet, en fait. Si la personne a un problème, une problématique logement, on travaille avec les partenaires logement, et etc. Quoi.
En général, un jeune qui rentre à Passerelle, bon, j'imagine qu'il y a des différences et des nuances, mais il est suivi combien de temps, par combien de personnes? Et une fois que c'est fini, qu'est-ce qu'il devient? Il replonge dans ses problèmes ou il y a des issues? Bon, on sait que c'est pas toujours facile, hein. On est dans une société qui est pas forcément tranquille avec ce type de problématiques. Est-ce que, décris-nous cette réalité?
Alors oui, c'est dur, hein, la réalité, et notamment pour les jeunes, parce qu'il n'y a pas d'emploi, donc ils n'ont pas non plus forcément de motivation. Donc la base de l'accompagnement chez Passerelle, c'est le volontariat et puis la motivation. Donc, c'est-à-dire que on n'oblige pas les jeunes à venir, hein, c'est vraiment eux qui viennent demander un accompagnement. Et pareil, si jamais ils ont besoin d'un peu de temps, on leur laisse le temps de régler leurs problèmes ou de s'ouvrir à nous. Donc ça peut être très rapide, notamment pour l'IEJ, ça peut être de 3 mois à 1 an, voire 18 mois, parce qu'en fait, on a eu un agrément sur 2 ans et on a accompagné des jeunes pendant 2 ans et seulement maintenant on a une solution. Après, ça peut être très rapide, il suffit juste d'un petit problème administratif, on règle le problème administratif et en 3 mois c'est fait, on a trouvé une formation ou un contrat. Donc oui, on a quand même des réussites, des contrats pro, des contrats d'apprentissage, des entrées en formation. Hier encore, il y a un petit jeune qui l'année dernière était avec sa casquette et son gros jean, il me dit oh non, c'est pas possible, et puis là cette année il me dit je suis en formation en logistique, etc. Donc c'est une avancée pour nous. Bien sûr, ce n'est pas tout de suite l'emploi, mais c'est déjà beaucoup de choses pour eux.
Peut-être une toute dernière question. La réalité chiffrée, qu'est-ce que c'est? C'est combien de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, hein, dans l'année, qui sont accompagnés par combien de personnes au sein de Passerelle?
Alors, je parlais pour mon cas. Donc, les 2 ans que j'ai fait pour les jeunes, on a eu 2 fois 50 jeunes. Donc, ça fait 100 jeunes qui ont été accompagnés. Et de toute façon, nous, on a toujours des réussites. Pour nous, dès qu'il y a une avancée, ce que je disais, la personne, elle s'est parlé devant un public, elle a réglé son problème de logement. Parce que voilà, il y a des jeunes qui se retrouvent à 18 ans à la rue. On gère tout ça, même juste dans un CHRS ou un FJT. C'est une réussite pour nous. Et ensuite, bon, y a encore des plus belles réussites quand on signe un contrat et puis que le gamin, il se met en appartement, qu'il a sa petite copine, etc. C'est vraiment bien. Et ils reviennent nous voir, ils nous amènent des petits chocolats. Et après, pour tout ce qui est action adulte. Donc on a quatre groupes tout au long de l'année, donc pour ce qui est AIS et RAP, donc groupe mobilisation autour du projet professionnel. Et là, c'est environ 12 personnes par session. Donc ça fait environ 50 personnes voilà, par an en adulte.
Très bien, je te remercie Coraline. Alors, peut-être pour terminer sur peut-être une question un petit peu critique. On voit bien qu'il y a des difficultés un petit peu dans l'activité que tu mènes à Passerelle, difficultés qui sont liées au contexte de la société en général. Hein. Quel regard tu portes sur tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Quelles seraient tes aspirations, toi, pour que ça se passe mieux?
Alors malheureusement, on arrive dans une société, comme on disait, et toutes les petites associations en pâtissent hein, parce qu'on a du mal à vivre. On dépend des fonds européens, des fonds, des financements du conseil départemental, du conseil régional. Et ces institutions mettent un petit peu de temps des fois à payer et la trésorerie des associations n'est pas extensible. Donc c'est vraiment dommage de devoir avancer en sachant pas comment ça va se passer du lendemain et devoir dire on attend. Donc nous, on n'attend pas, on fait quand même. Hein. C'est sûr qu'on ne va pas dire aux jeunes qui se pointent ou à la personne qui est en désespoir, on ne va pas t'accompagner, on le fait. Mais c'est vrai que aussi nous, en tant que salariés ou en tant qu'association, il faut qu'on puisse vivre et perdurer. Donc voilà, c'est ces financements qui sont toujours très durs à obtenir et très longs.
Alors je suis maintenant avec Stéphanie, hein, toujours à l'association Passerelle, ou plus exactement, on va arrêter de parler de l'association Passerelle, puisque Stéphanie fait partie de la SARL Passerelle, autrement dit de la société à responsabilité limitée Passerelle. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et typiquement te présenter et situer ton activité au sein de Passerelle?
Je me présente, je suis Mademoiselle Robriquet Stéphanie. Donc je suis superviseur au sein de la plateforme téléphonique. Donc nous gérons donc un centre d'appel pour profession médicale et paramédicale. Donc moi je suis arrivée en 2001, donc il y a quelques années, donc ça fait 16 ans. Comme étant le premier poste d'insertion au sein de la SARL. Je suis restée pour une période de 2 ans, parce que les postes d'insertion, c'est maximum 2 ans au sein de la structure. Et j'ai pu, à partir de 2003, être en CDI. Donc j'ai eu la possibilité de monter en grade, on va dire, en remplaçant la superviseuse qui était là avant moi.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, que je comprenne bien, que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien Tu as donc été dans un parcours d'insertion, autrement dit tu étais demandeuse d'emploi à un moment donné, tu as été dans un parcours d'insertion organisé par Passerelle et ensuite tu as intégré Passerelle en tant que salarié. Est-ce que j'ai bien compris?
C'est tout à fait ça. Donc je suis arrivée en tant que contrat d'insertion et je suis arrivée par le biais d'une offre qui avait été diffusée sur Pôle emploi et j'ai été contactée par Monsieur Noël pour pouvoir tenir l'entretien, le premier entretien qui s'est bien passé. Et j'ai pu justement intégrer la structure.
Donc pour le coup, on peut dire que là, c'est une sortie extrêmement positive du parcours d'insertion finalement.
Tout à fait, oui. J'ai eu justement la possibilité de rentrer dans cette structure, pouvoir justement faire un métier que je ne connaissais pas non plus, que j'ai découvert au fur et à mesure, et prendre des responsabilités au bout de 2 ans, forcément, donc, puisque j'ai pris les rênes du centre d'appel, on va dire.
Alors on va, si tu le permets, détailler un petit peu l'activité centre d'appel. Donc tu évoquais des cabinets médicaux, donc on connaît le principe, hein. Je pense que quand on est malade et qu'on appelle le médecin, en fait on tombe pas sur le médecin, on tombe sur le centre d'appel. Alors, il y a combien de personnes qui sont mobilisées à Passerelle sur le centre d'appel? Il y a combien de cabinets médicaux? Comment ça se passe une journée en centre d'appel finalement?
Alors, nous sommes en nombre de 6, donc moi qui est en CDI et également une autre personne. Et là, actuellement, mais bien souvent, on est à 4 postes d'insertion. Donc, on tourne à 6 personnes sur une amplitude horaire de 7h le matin jusqu'à 19h30 le soir, sans interruption. Du lundi au vendredi, également le samedi matin. Donc nous gérons des appels entrants principalement pour des professions médicales et paramédicales. Donc essentiellement de la prise de rendez-vous, les visites à domicile, les messages. Mais on prend également les messages, enfin on fait on s'occupe également du secrétariat au niveau de l'association, c'est-à-dire les appels, on les reçoit également et on transfère à chaque personne concernée.
Alors, ça veut dire que, en gros, les clients de l'entreprise, de la SARL Passerelle, ce sont des cabinets médicaux. En plus, il y a le télésecrétariat de l'association Passerelle et de la SARL Passerelle elle-même. Il y a d'autres types de clients, d'usagers de Passerelle ou ça se limite aux cabinets médicaux ?
On a déjà eu... on a déjà eu d'autres... donc les professions, bon, principalement c'est des médecins. On a pu avoir aussi des... Là, on a une grosse structure de sécurité également, qui est basée dans le bassin minier également. Donc on prend les appels. C'est-à-dire que quand il y a des... on appelle l'astreinte quand on a des... Enfin, c'est une structure de sécurité, en fin de compte. C'est tout ce qui est gardiennage par rapport aux entreprises. Et donc, on reçoit l'appel et de là, on doit se dispatcher à la personne concernée.
Donc, il n'y a pas la volonté de limiter le centre d'appel aux professions médicales. C'est un centre d'appel généraliste, générique, qui peut concerner différentes associations, entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, finalement.
Tout à fait. Bon, principalement, c'est quand même le médical qui reste quand même, mais on peut éventuellement recevoir des entreprises autres que médicales, oui.
D'accord. Alors peut-être, parce que c'est quand même une activité qu'on ne connaît pas beaucoup, hein, cette activité de centre d'appel, bah, notamment pour les médecins. Les médecins, les cabinets médicaux concernés, ils sont situés dans le bassin minier, ou dans la région, au-delà. Donc ça, c'est une première question. Il y en a combien, à peu près, hein? Est-ce qu'on est dans la dizaine ou est-ce qu'on est dans... on sait quoi, un petit peu la volumétrie. Et puis, comment ça se passe, le compte-rendu, autrement dit, si moi je suis malade, j'appelle pour un médecin, comment est-ce que c'est transmis au médecin? Enfin, et financièrement, il y a un relevé par mois, comment c'est géré que nos auditrices et nos auditeurs aient une petite photo un petit peu de cette activité?
Donc, la principale activité, je veux dire, du centre d'appel, c'est le lundi. C'est après week-end, donc justement, c'est là où les patients vont un peu affolés, ils veulent un arrêt de travail, ils veulent un rendez-vous de suite. Donc, tout dépend justement des consignes de chaque médecin qu'on a tout d'abord. Chaque médecin ne travaille pas de la même façon. Soit, si vous voulez, on travaille sur un agenda interactif via Internet ou également agenda classique. Agenda classique, c'est agenda papier. Donc, de ce fait, d'après les consignes du médecin, nous, on transfère la demande soit via l'agenda ou également par téléphone, par SMS ou par mail. Tout dépend du médecin. Donc, vous me demandiez tout à l'heure une journée type. Une journée type, c'est les répondeurs qui sont enlevés dès le matin. Donc, il faut être à son poste, il faut être, on va dire, au pied de guerre tout de suite, quoi, parce que forcément, c'est... Le cerveau travaille énormément, surtout lundi, comme je disais, c'était vraiment la journée la plus intense de la semaine. Et je ne sais plus quelle question vous m'avez posée auparavant par rapport.
Je parlais de le lieu géographique, la localisation géographique des médecins.
Tout à fait. Donc principalement, on a des cabinets qui sont situés dans le bassin minier, mais on a également des médecins qui sont situés sur Toulouse, pour vous donner un peu voilà.
Une dernière question, parce que j'avoue que je découvre ce type d'activité. Je suis malade, j'appelle le médecin, donc je tombe sur une personne de Passerelle. Ma demande, elle va être transmise quand au médecin? Elle va être transmise dans la minute? Ou alors vous envoyez ça toutes les heures? Dans le concret, comment ça se passe?
On essaye de faire au mieux. Tout dépend de la demande. Si la personne appelle le matin, qu'elle est malade, c'est soit SMS tout de suite. Bon, on attend la réponse du médecin, donc on peut pas décider sans son accord, forcément. Donc, soit c'est la réponse, on dit à la personne, on vous rappelle dès que possible. Et dès qu'on a la réponse, on appelle la personne, dans tous les cas. Bon, après, ça dépend de la réponse du médecin. Si la réponse ne se fait pas automatiquement, on peut pas répondre à sa place. Mais on essaye de faire au mieux, effectivement.
Très bien, merci Stéphanie. Alors, peut-être des questions maintenant sur... Le travail en lui-même, moi j'ai l'impression que c'est un travail qui doit être stressant quand même. Je sais pas, j'imagine qu'on a un casque sur les oreilles, c'est un peu comme ça la représentation que j'ai de la personne qui est en centre d'appel, avec peut-être parfois des lignes qui sont encombrées, peut-être parfois un stress qui est lié au fait de bien faire son activité. Bon, c'est ça, ça se passe comme ça ou c'est plus cool comme on dit?
Moi je veux dire c'est plus cool, bon je n'ai jamais travaillé auparavant dans un centre d'appel, bon j'ai pu quand même apercevoir quand même comment ça se passait, comment ça fonctionnait. Nous on est quand même dans une équipe assez restreinte, on n'a pas le casque, hein, donc forcément, effectivement vaut mieux quelquefois ne pas l'avoir parce qu'on s'écoute entre nous, si on met un rendez-vous en même temps que l'autre personne, forcément on est obligé d'être concentré sur son appel et également d'écouter les personnes autour de nous. Donc, mais c'est rien à voir avec le centre d'appel qu'on peut imaginer.
Alors Céline, toi au sein de Passerelle, hein, aussi bien l'association que l'entreprise, la SARL, tu as un rôle un petit peu particulier puisque tu es secrétaire de direction, c'est un rôle un petit peu transversal. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton arrivée à Passerelle et puis de ce que tu y fais?
Alors effectivement, j'ai une part sur la CRL et sur l'association. Donc sur l'association Passerelle, je suis assistante de direction et coordinatrice sur la formation tertiaire. Et au niveau de la SRL, donc je suis assistante de direction. Donc moi, je suis arrivée en fait en 2009 comme secrétaire sur la SRL Passerelle en contrat d'insertion donc pour 2 ans. Avant la fin de mes 2 ans, j'ai intégré le BTS assistante de gestion PMU-PMI. Donc je suis passée sur l'association et après mon BTS, j'ai été embauchée sur l'association Passerelle.
Donc c'est encore une fois, on peut le dire, un parcours d'insertion qui s'est terminé par une intégration au sein de Passerelle, entreprise et association. Finalement, c'est une belle sortie.
Bien sûr, ça m'a permis d'avoir un diplôme en plus, d'avoir des compétences en plus, d'évoluer. Donc, j'ai grandi au sein de la structure et j'ai été accompagnée par mes collègues qui m'ont appris les choses du métier, en fait.
Alors, si tu es d'accord, on va revenir sur les différentes facettes de ton activité. Tu parlais de formation tertiaire. J'ai envie de dire que c'est un gros mot. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu?
Alors, depuis le mois de septembre 2017, je coordonne la formation tertiaire, c'est-à-dire qu'on a une formation qualifiante. Le titre pro de secrétaire assistante médico-sociale, c'est un diplôme d'équivalent au bac reconnu par le ministère de l'Emploi. On accueille 14 parcours, donc une formation qui dure 8 mois, donc on prépare 14 personnes pour le diplôme. Le diplôme qui sera pour cette année par exemple passé au mois d'avril. Donc ces 14 personnes, donc ça peut être des salariés, des demandeurs d'emploi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre?
Typiquement, toi, ton rôle là-dedans, c'est quoi? Tu inscris les gens, tu les accompagnes, tu les encadres. Enfin, quel est ton rôle précisément dans cette formation?
Alors moi, en fait, le premier contact que les personnes ont, c'est avec moi. Donc, soit elles sont envoyées par leur référent de Onkviol Pôle emploi ou leur entreprise. Donc, elles ont un contact avec moi. Donc, moi, c'est moi qui gère de les positionner sur les réunions pour les tests et l'entretien de motivation. Donc ensuite, je gère aussi leur dossier administratif, leur dossier financier au niveau des financements. Et aussi, je les accompagne au niveau de la formation. Je les forme sur de la bureautique, notamment le logiciel Word.
Très bien. 14 personnes par an. Qu'est-ce qu'ils deviennent après ces personnes? Toutes réussissent ou il y a des échecs
Alors l'année dernière, sur le titre pro, on a eu 100% de réussite à l'examen et 100% de sortie à l'emploi. C'est-à-dire que les personnes qui sont sorties en emploi ont été repérées pendant les stages qu'elles ont faits pendant la formation. Et là, j'ai relancé pour faire un petit suivi des parcours après formation et elles sont toujours à l'emploi.
Donc ça fait plaisir ça, j'imagine.
Bien sûr, c'est encourageant et motivant.
Très bien. Alors, d'autres activités, tu parlais d'activités financières. Tu peux nous préciser?
Alors moi, j'interviens aussi au niveau de la partie financière, donc sur nos actions de formation, donc notamment sur le pôle insertion. Donc là, on monte les projets avec Coraline Lebrun. Donc les projets pédagogiques et financiers. J'interviens au niveau des suivis financiers, notamment pour les factures de solde en fin d'action auprès des financeurs.
Une activité à responsabilité ?
Tout à fait, ouais. C'est important, ouais.
Alors, est-ce que... j'imagine que ça doit occuper quand même pas mal de temps, le temps d'emploi du temps. Est-ce qu'il y a d'autres créneaux sur lesquels tu es investi ?
Alors, là, sur l'association, j'ai fait le tour. Je suis aussi sur la SRL Passerelle, donc au niveau administratif et aussi financier. Donc, moi, je gère donc tout ce qui est financé, la facturation client mensuellement. Et aussi au niveau des domiciliations commerciales, puisque la SARL propose une domiciliation commerciale, tout type d'entreprise. Là, actuellement, on a une quinzaine d'entreprises domiciliées chez nous.
Alors, est-ce que tu peux préciser le service qu'il y a derrière ? C'est, on réceptionne le courrier, il y a d'autres aspects ?
Alors, chaque client dispose d'une boîte postale au sein de la structure. Qui est à leur disposition. Donc moi, ce que je fais, c'est que chaque jour, je récupère leur courrier au niveau de la poste et on redistribue dans chaque boîte le courrier pour chaque client. En plus de ça, nous proposons des locations de salles. Donc si les clients souhaitent recevoir des personnes, ils nous appellent, ils nous bloquent une salle et nous, on réserve pour eux en fait la salle.
Je te remercie. Alors je crois savoir que tu es également investi dans l'activité de reprographie.
Tout à fait. Donc, on propose un service de reprographie, c'est-à-dire photocopier en nombre. On fait les cartes de visite, les flyers, les dépliants. Et pour le service reprographie, on propose aussi aux clients des comptes copies qui leur permettent de passer régulièrement sans avoir à payer tout le temps. En fait, ils payent une seule fois leur compte et le compte est illimité. Ils peuvent l'utiliser à n'importe quel moment pendant n'importe quel temps, en fait.
Une dernière thématique sur laquelle tu investis, tu évoquais la logistique.
Alors, au niveau de la logistique, donc sur l'association, c'est tout ce qui est organisation au niveau des salles, la programmation des formations, l'organisation avec les intervenants extérieurs, puisque sur le titre pro, on fait appel à des intervenants extérieurs, des vacataires, des professionnels du métier. Donc, on a par exemple Marc Rebière qui intervient au niveau de la comptabilité et qui est prof au lycée Henri Darras. On a Corinne Le Cézic qui est sophrologue, donc qui a intégré la structure l'année dernière. Et on a aussi Ariane Gray qui est prof de français, donc elle aussi, donc elle est retraitée, mais elle vient donner des cours de français à nos participants. Et on a aussi Gérard Di Natal, donc qui travaille sur le pôle insertion et qui donne des cours de communication sur le titre pro.
Je crois que c'est le moment de préciser la réalité de Passerelle. Tu évoques la gestion des salles, ça veut dire qu'il y a beaucoup de salles. Donc on peut peut-être préciser Passerelle, donc c'est place du Grand Condé à Liévin. Et quand tu parles de salles, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors en fait, on est répartis sur le square du Grand Condé. Donc on a une cellule qui est destinée à l'accueil. On a quatre autres salles. Donc on a un bureau, on a deux salles de cours et une salle informatique où on dispose de 14 postes informatiques équipés d'ordinateurs, imprimantes, logiciels informatiques et autres.
Très bien, je te remercie Céline. Alors, donc Passerelle se situe dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Hein, c'est aussi l'objet de cette série d'émissions sur Micro Rebelle. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est tournée vers les hommes et les femmes, hein, vers les gens de manière générale et pas vers le profit financier. C'est important pour toi, c'est ce type de valeur ?
Bien sûr. Nous, au sein de la structure, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes de niveau et de différence, on va dire. Et nous, on fait notre maximum pour les accompagner et avoir du résultat pour elles, quoi, par la suite.
Alors justement, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est une petite goutte d'eau hein, dans l'économie d'une manière générale. Ça veut dire que c'est pas toujours facile. D'une manière générale, je pense à rien de particulier. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer à tes yeux, qu'est-ce qui serait important de changer pour que justement l'économie soit plus sociale et solidaire d'une manière générale ?
Alors nous, sur la structure, comme Coraline Lebrun disait, on rencontre des difficultés financières, on va dire. Moi, par exemple, sur le titre pro, j'ai énormément de personnes qui n'intègrent pas la formation puisqu'ils n'ont pas de financement. Donc malheureusement, l'année dernière, j'ai eu un grand nombre de personnes motivées et qui étaient prêtes à rentrer en formation chez nous, mais faute de financement, elles n'ont pas intérêt. Donc leur projet est en suspens et elles sont là, elles sont bloquées, quoi, elles peuvent rien faire.
André, donc André Noël, hein, tu es président de l'association Passerelle, gérant de la SARL Passerelle. Ma première question, c'est, bon, tu vas en profiter pour te présenter, c'est on a vraiment le sentiment d'un foisonnement d'activités. Hein, on a parlé de centre d'appel, on a parlé de formation tertiaire qualifiante, on a parlé de reprographie, on a parlé de parcours d'insertion. On a le sentiment d'une espèce de pieuvre, d'un foisonnement d'activités. J'imagine que tout ça n'est pas venu du jour au lendemain. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu cette aventure ?
C'est une aventure qui date de l'année 2000, exactement. Bon. En 2000, je suis licencié de la structure où j'étais. Bon, sur un licenciement, sur un désaccord de fond, parce que j'avais un PDG d'une structure associative qui prétendait que pour s'occuper des publics de bas niveau, des publics en difficulté, il n'y avait pas particulièrement besoin d'être qualifié. Bon, ça m'a fait sauter au plafond. Je dis, c'est pas possible d'entendre ça, parce que pour moi, à mes yeux, c'était un manque de respect vis-à-vis des personnes qui se trouvent en situation sociale, culturelle, professionnelle, très très difficile. Donc, c'est en discutant avec Madame Lafage, qui est encore actuellement d'ailleurs à la directe, que l'idée d'une création d'entreprise d'insertion est venue, elle me disant, mais pourquoi on ne tenterait pas une création d'entreprise dans le domaine du tertiaire, parce que jusqu'à maintenant on a une image un petit peu galvaudée de la notion d'insertion, parce que c'est ou bien des personnes qui sont dans le bâtiment, parce qu'on considère qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de qualifications, ce qui est faux aussi d'ailleurs, ou bien des personnes dans l'espace vert avec les mêmes raisons, ce qui est aussi faux. Et par contre, on n'a rien dans le domaine du tertiaire. Donc voilà, l'aventure commence là. Après, et ça démarrera en 2001, après un an d'études de marché et de montage du projet en lien avec différents partenaires, donc les services de l'État à l'époque, le PLI et un certain nombre d'autres structures avec qui on a essayé de voir clair au niveau de la création et notamment d'Artois Entreprendre. Voilà.
Donc on est en 2000, hein, tu es licencié, tu réfléchis en liaison avec une personne de la directe à créer une entreprise d'insertion qui démarre en 2001 dans le domaine du tertiaire. Et les autres activités, elles arrivent comment ?
Alors, les autres activités, en fait, elles étaient prévues dans le projet, parce que ce soit au niveau de la SARL ou au niveau de l'association, qui ont été créées en même temps, hein, l'objectif le but de chacune des structures est exactement le même, c'est de faire en sorte qu'on mette en place des opérations qui permettent à des publics en difficulté d'insertion sociale, d'insertion culturelle, d'insertion professionnelle, de faire un parcours, de passer par différents chemins pour aller jusqu'à l'emploi. Bon, d'où le nom Passerelle d'ailleurs. C'est un des éléments. Dans cette affaire-là, pour l'association, ce qui était clair, c'était que c'était par le biais de l'accompagnement et de la formation professionnelle. Donc depuis la définition de projet jusqu'à l'entrée éventuelle en qualification, c'est pour ça que j'ai tenu à avoir aussi un axe de qualification au niveau de l'association et si possible un axe de qualification qui était en lien avec l'activité de la SARL, ce qui était logique. Bon, et au niveau de la SARL, l'objectif est le même, sauf que les moyens sont différents, donc, parce que là il s'agit de mettre des personnes au travail qui sont salariées et donc qui ont un statut de salarié et qui mettent en œuvre un certain nombre de services qui étaient prévus dès le départ, que Céline a très bien évoqué tout à l'heure, et bon, qui ont pris de l'ampleur progressivement. Bon, maintenant, au niveau des domiciliations d'entreprises, par exemple, de plus en plus, on nous envoie des personnes. Bon, en lien d'ailleurs avec les closeries d'entreprise de Liévin, au niveau du service copie, bon, là aussi c'est des choses qui se sont développées, bon, par le oui dire, mais je pense aussi par l'accueil. On accueille les clients, quels qu'ils soient, comme on accueille les stagiaires, quels qu'ils soient. Voilà.
Aujourd'hui, tu dirais que la marque de fabrique de Passerelle, c'est la qualité de son accueil, finalement, de l'accueil de tous les publics et clients, quels qu'ils soient.
C'est un des éléments. Je pense que le deuxième élément, c'est que on a dans les deux cas, dans les deux structures, une équipe de personnes qui partagent cette sensibilité par rapport au public en difficulté et qui investissent. Bon, même si quelquefois c'est pas toujours évident, mais je n'ai jamais, par exemple, entendu personne au niveau des structures dénigrer ou des clients, ou des stagiaires, ou des gens qu'on accompagne. Bon, même si quelquefois, il faut quelquefois passer par des chemins. Quand au niveau de l'association, par exemple, on est amené à dire à des gens, il faudrait peut-être que vous fassiez votre toilette, il faudrait peut-être que vous laviez votre linge, faudrait peut-être. Bon, ça, ce sont des points de départ. Bon, et c'est peut-être des gens qu'on retrouvera un moment ou un autre parce que ils auront évolué, ils avanceront, créeront peut-être leur entreprise, c'est arrivé. Et donc tout ça, c'est cohérent. Et je pense que l'ensemble des salariés sont dans ce projet. En tout cas, moi j'y veille parce que le passerelle, je disais tout à l'heure, c'est un chemin, c'est un passage. Bon, en général, c'est un passage étroit d'un point à un autre. Bon, mais passerelle, c'est aussi la définition d'une tête de pont d'un navire. Et c'est de là qu'on pilote son navire. Bon. Mais pour piloter son navire, il faut un projet, il faut savoir où on veut aller. Bon. Voilà, on est tout ça. Bon. Et je pense que l'équipe partage ce point de vue. Alors, on n'en parle pas tous les jours en train de se dire, oh là, voilà, on est les meilleurs, je ne sais pas quoi, l'objet, c'est pas ça. Bon. Par contre, il y a des moments où c'est important de s'y retrouver ou de se retrouver autour de ça. Actuellement, par exemple, au niveau de l'assaut, toute l'équipe de l'assaut, avec Stéphanie en plus, ont 2 jours de formation pendant 3 semaines, le jeudi, vendredi, qui a pour but de développer, d'approfondir pédagogiquement le travail qui est fait. Bon, et donc, en approfondissant pédagogiquement, d'avoir une cohésion de travail entre les structures. Parce que des personnes qui passent par l'association pour différentes raisons peuvent très bien se retrouver à un moment donné en situation de travail avec Stéphanie. Donc voilà, la démarche un petit peu. Je crois que c'est les deux points. La qualité de l'accueil. Bon, il y a évidemment la qualité de service parce que bon, on est entreprise, on est organisme de formation, donc on fait le travail correctement. Bon, mais c'est aussi l'adhésion des deux équipes sur le projet. Qui est un projet global, je dirais, qui est un projet de groupe. Hein, on n'est pas multinational, je ne sais pas quoi, mais on pourrait presque parler du groupe Passerelle.
Alors, un groupe qui a quand même quelques belles réussites. Hein. On écoutait tout à l'heure Stéphanie puis Céline, hein, qui sont rentrées par un bout dans les parcours d'insertion de passerelle et puis qui maintenant occupent des postes à responsabilité. J'imagine qu'il y a d'autres belles réussites comme celle-là. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Peut-être il y a aussi des moments de frustration ou de difficulté.
Oui, bon. Si on fait le point un petit peu au niveau de la SARL en termes de résultats, de réussite, en gros, en termes de retour à l'emploi, depuis 2001, on a un retour à l'emploi moyen qui se situe entre 65 et 70% des personnes qui sortent. Bon. Quelquefois, c'est directement après la sortie, quelquefois, c'est un mois ou deux après, mais il y a un emploi. Ça c'est un point de réussite important. Un point de réussite important aussi, c'est quand des personnes rentrent en formation qualifiante parce que ben, leur projet s'est étoffé en travaillant et avec l'expérience de travail qu'on leur donne pendant deux ans, ouais, ils commencent à avoir des éléments pour engager une formation, que ce soit en secrétariat médico-social ou dans d'autres domaines où ils peuvent éventuellement aller. J'ai le souvenir d'une personne qui avait été chez nous, qui voulait être aide-soignante, donc il fallait préparer le concours. La première fois, elle rate le concours. Elle arrive 45e ou 50e, je ne sais plus combien. Bon, on a dit, mais ça fait rien. Ton projet, c'est ça. Donc, on va continuer à travailler. On va essayer de voir pourquoi ce concours il a été raté. Bon, on l'a réaccompagnée pendant un moment. Elle a repassé le concours. Elle est arrivée deuxième. Aujourd'hui, elle est aide-soignante. Bon. Mais ça a pris deux ans au sein de Passerelle. Puis, sa formation, disons, c'est 3-4 ans. Il faut vraiment du temps pour arriver à des choses comme ça. Bon, c'est pareil, je prends l'exemple de la SARL, mais on pourrait prendre des exemples identiques au niveau de l'association. C'est exactement la même chose. Alors après, oui, il y a des déconvenus. Il y a des déconvenus parce que ben, il y a des personnes qui quelquefois retombent, hein, dans leurs difficultés. Et donc là, il faut quasi recommencer. Y a des personnes qui sont quelquefois empêchées d'évoluer, d'avancer. Ça nous arrive d'avoir dans un couple, par exemple, d'avoir soit le mari qui refuse que la femme fasse une formation, même viennent travailler en poste d'insertion, ou l'inverse. Bon, il y a des choses comme ça. Bon, et là, bon, on peut pas y faire grand chose parce que ça touche la vie des gens directement. Donc voilà, ça c'est des déconvenus. Bon, après, je dirais je pense pas qu'au niveau de l'insertion on a eu des déconvenus. On a toujours été suivi en termes de financement, là pour le coup, par l'État. Bon, on a moins de difficultés de financement au niveau de la SARL, au niveau de certitude de financement d'aide de l'État, que sur l'association d'année en année. Il faut à chaque fois se reposer la question de dire où on va aller. Bon, le problème, c'est que les deux structures sont forcément liées. Puisqu'il y a des choses, les investissements sont des investissements communs, par exemple au niveau du matériel. Bon. Et donc, quand il y a un bras qui ne va pas, ben, l'autre ne va pas forcément bien non plus. Voilà un petit peu le problème de fond aujourd'hui. Bon. Alors, ce n'est pas une déconvenue, mais c'est une préoccupation.
Oui, d'ailleurs, on sentait bien dans les interventions de Coraline et de Céline que... puis on connaît aussi la réalité des associations, hein, qui ont un budget de plus en plus contraint, avec y compris des menaces pour beaucoup d'associations. Hein. On sent que c'est également une préoccupation passerelle.
Oui. Oui, c'est une préoccupation forte parce que bon, forcément ça imprègne un peu tout le monde. Bon. Sur ce point-là, on a traversé une crise. Il y a une crise interne. Il y a maintenant 5-6 mois. Parce que je pense que quand on vit ça, il faut être clair. Et là, c'est ma responsabilité. Quand il y a un problème de trésorerie, je le dis clairement. Mais j'ai toujours dit, un problème de trésorerie, ce n'est pas forcément un problème économique. Et notre problème, il est là. On a de l'activité, mais l'activité est financée beaucoup trop tard, même après la fin de l'opération. Il faut avancer des choses en termes de délai de paiement. Il y a des délais de paiement qui sont à 700 jours, c'est aberrant. C'est aberrant. Il faut aussi avancer en termes de fonctionnement. C'est-à-dire que quand on a une convention, les personnes qui travaillent, il faut les payer. Il y a leur salaire, il y a des frais de déplacement, il y a tout ça. Bon. Et donc, ça, il faut faire l'avance. Et j'ai calculé une fois, il faudrait quasi qu'on ait l'équivalent de 2 ans de budget en fonds de roulement, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Voilà. Alors quand je dis ma responsabilité là-dedans, c'est quoi? C'est de faire en sorte évidemment que les choses rentrent. Bon. Et pour ça qu'au suivi, au niveau suivi facturation, on suit ça de près, et notamment avec Céline, et on essaie de faire vite, hein, pour que. Bon, et puis quand ça rentre pas, on appelle. Bon. Mais c'est aussi de dire clairement les choses. Quand il y a un problème de trésorerie, je le dis clairement. Je comprends très bien que ça peut poser problème au niveau de chaque personne, c'est clair. Bon. Mais en même temps, quand il n'y a pas, j'ai aucune raison non plus de traîner au paiement de salaire. Donc voilà. Alors ce qui fait que quelquefois, le premier du mois, le salaire, il peut être versé, puis quelquefois ça va être 5 ou 6 parce qu'il va y avoir un problème de trésorerie qui va venir. Bon, voilà. À partir du moment où les choses sont dites clairement comme ça, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas forcément le fait que les personnes aient un sentiment un petit peu de frustration à un moment ou à un autre. Bon. Mais au moins c'est clair. En tous les cas, c'est plus clair pour moi que d'aller donner la fiche de paye aux gens en disant on a encore passé par une belle porte ce mois-ci. Bon. C'est pour ça que j'ai dû me séparer de certaines personnes. Parce qu'on ne peut pas tenir une équipe si on a ce type de discours. Bon. Or là, je pense que on est conscient du problème, mais on a aussi en même temps des gens qui sont très motivés, et donc ça permet d'avancer. Bon. Et puis, point important, on a enclenché avec Pas-de-Calais Actif Pas-de-Calais, tout un début d'audit qu'on a commencé il y a une bonne semaine, hein, c'est ça?
Ouais. C'est un DLA, c'est ça, non?
Un DASES. on a fait une première rencontre donc entre la personne. Enfin, il y a une première rencontre avec Laetitia Rollin. Entre Laetitia Rollin, donc qui est l'interlocutrice qui vient, Céline et moi. Ça va se poursuivre les prochaines séances par un travail avec Laetitia Rollin, Céline et chacune des personnes de chaque service, hein, voir un petit peu quelles sont leurs façons de voir les choses, leur façon de voir l'avenir. Bon. L'idée, c'est d'arriver à ce que d'ici, on va dire, juin, maxi, on puisse mettre sur pied ce qu'on pourrait faire en termes d'activités qui permettent d'arriver sur des financements plus rapides. Bon, on va utiliser un terme plus économique, plus lucratif. Hein, voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut bien regarder les choses aussi en face. Voilà.
Ok, bon, puis je pense que tu l'as fait, mais j'en profite pour le redire à mon tour. Je pense qu'il faut aussi pointer du doigt ces fameux délais de paiement quoi, qui étranglent de très nombreuses associations. Je crois que les pouvoirs publics, les financeurs, ont une sacrée part de responsabilité dans parfois la survie de certaines associations. Si tu permets, André, on va terminer cet entretien en discutant un petit peu d'économie sociale et solidaire. Hein. Moi, il y a une chose qui m'a marqué que j'ai retenue dans ton intervention, c'est par exemple quand tu exposais le fait que une personne pouvait mettre 2-3 ans pour aller au bout d'une formation dans le domaine médical, alors que c'est pas du tout un cas habituel. C'est un bel exemple aussi de ce que peut permettre l'économie sociale et solidaire.
Oui. Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est fondamentalement donner la chance à tout le monde. Alors, dans un contexte économique qui ne leur est pas favorable. La notion d'économie, elle est là aussi pour nous. On fait pas notre travail parce qu'il faut à tout prix être rentable. C'est pas l'idée. Au niveau de la SARL, par exemple, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de dividendes aux actionnaires. Pour moi, c'est clair. Et la personne qui veut être actionnaire dit, vous pouvez, mais je vous préviens, il n'y aura jamais de dividendes. Bon. Si la société fait du résultat, il y aura la possibilité de partager entre les salariés une partie du résultat, parce qu'en même temps, il faut aussi penser à l'investissement et tout ça. Bon. Mais jamais ça sera pour les actionnaires. Pour moi, ça, c'est une valeur fondamentale. Sinon, on est une entreprise comme les autres. Bon. Après, donner la chance à tout le monde, bon, ça veut dire de prendre le temps de comprendre ce qu'est la personne, de comprendre son parcours et de faire en sorte qu'on ait les éléments pour, je dirais, digérer le pourquoi elle en est là, et d'essayer de traiter, je dirais, l'environnement qui fait qu'elle ne peut pas avancer ou ne peut pas avancer plus vite, du mieux possible, en faisant appel à des partenaires qui ont un tas de compétences. Bon, on parlait tout à l'heure de différents partenaires, bon, planning familial par exemple, avec qui on travaille aussi, bon, important sur un certain nombre de choses qu'on peut avoir. Fil d'Ariane sur des problèmes de drogue ou des choses comme ça, bon, c'est des choses qui, pour moi, dans leurs compétences, sont des alliés, je dirais, quelque part, de l'économie sociale et solidaire. Bon. Et puis, deuxième point, je travaille, je suis plus salarié, hein. Je suis gérant et président bénévole, mais dans l'équipe de salariés des deux structures sont majoritairement des femmes. Bon. Des femmes qui prennent des responsabilités, pour moi, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de femmes qui prennent de responsabilités au niveau de la société aujourd'hui.
Ce micro-rebelle reportage se termine.
Retrouvez tous nos reportages sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous, et à bientôt pour un nouveau Micro-Rebelle reportage.